Parole de Dieu dans Matthieu chapitre 5, nous lirons les versets 1 à 9. Chapitre 5, nous lirons les versets 1 à 9. Ce matin, nous allons nous concentrer sur le premier verset de la partie du Sermon sur la montagne que nous appelons les béatitudes. Quelqu'un a appelé ces béatitudes les attitudes que nous devons manifester parce qu'elles sont les clés qui nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. Pardon, et c'est ce qu'elles sont en réalité. Elles constituent un plan de bonheur établi par Dieu. Elles sont les éléments de base pour construire notre maison et notre vie. Alors, nous allons lire ces versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, c'est-à-dire ceux qui sont tristes, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils irriteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire ceux qui désirent vivre avec ardeur comme Dieu le demande, car Dieu leur accordera pleinement. Heureux ceux qui ont pitié des autres, ou qui sont miséricordieux, car Dieu aura pitié d'eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà les merveilleuses attitudes que nous devrions manifester. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est esprit vérité. Merci, Seigneur, pour ces béatitudes que tu nous as données, que tu nous as laissées, qui sont, Seigneur, de la plus grande importance, puisque le premier, Seigneur, si nous n'avons pas le premier dans nos vies, eh bien, il est impossible, Seigneur, que tu nous ouvres les portes de ton royaume. Merci pour Jésus qui nous a enseigné ta vérité, parce qu'il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Ce matin, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos cœurs, nos esprits, à ce que tu veux nous enseigner, afin que nous puissions, Seigneur, être des dignes témoignages, des ambassadeurs, Seigneur, de ton royaume. Et c'est en Jésus-Christ que je te prie, je te demande ces choses. Amen. On m'a raconté qu'un gros chien, voyant un petit chien courir après sa queue, lui demanda pourquoi il faisait cela. Et le petit chien lui a répondu, « Eh bien, j'ai étudié la philosophie et je crois que je maîtrise maintenant la philosophie. Je crois que j'ai découvert la réponse aux problèmes du monde. J'ai découvert que ce qui était le plus grand besoin du chien, c'est d'être heureux et que ce bonheur se trouve dans sa queue. Voilà pourquoi je cours après ma queue. Si je peux saisir cette queue, si je peux saisir cette queue, si je peux m'accrocher à ma queue, alors je serai un chien heureux. » Le vieux chien qui était plus sage lui dit, « Moi aussi j'ai étudié la philosophie, et moi aussi j'ai réfléchi sur ces choses. D'une certaine façon, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est une bonne chose pour un chien d'être heureux, et moi aussi je crois dans une certaine mesure que le bonheur dépend de sa queue, mais j'ai fait une découverte. Plus je courais après ma queue, et plus elle s'éloignait de moi. Finalement, j'ai réalisé que quand j'oublie de courir après ma queue, que je m'occupe de mes affaires, je m'aperçois qu'elle est toujours avec moi. » Je ne sais pas si vous avez déjà un chien, vu un chien courir après sa queue, mais c'est vrai que plus il court après sa queue, plus sa queue s'éloigne de lui. Chers amis, ainsi en est-il avec le bonheur. Plus nous le poursuivons, et plus il s'éloigne de nous. Mais lorsque nous nous occupons de faire ce que Dieu nous demande de faire, nous nous réalisons que le bonheur est là. Pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, il y a de la joie et de la paix dans leur cœur, et c'est ce que le mot « heureux » signifie ici. C'est un mot presque difficile à traduire, car on pourrait aussi le traduire par « être débordant de joie ». Et le mot grec « makarios » signifie « avoir en vous tout ce dont vous avez besoin », et c'est ce que nous appelons le bonheur. Et ce matin, nous allons réfléchir à un plan que Dieu nous a transmis pour être heureux. Nous allons examiner certaines règles à suivre pour notre vie, ainsi que la première attitude que nous devons manifester pour vivre heureux et trouver le bonheur. Et c'est au verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Ça, c'est la première clé pour entrer dans le royaume. « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Remarquez que dans toutes les béatitudes que Jésus mentionne, il parle de ce que nous sommes et non pas de ce que nous avons. Dans toutes les béatitudes que Jésus mentionne, il ne parle pas de ce que nous avons, il parle de ce que nous sommes. Frères et sœurs, nous vivons dans une société qui met l'accent principalement sur ce que nous avons. Heureux ceux qui ont la santé. Heureux ceux qui ont de la puissance. Heureux ceux qui ont du prestige. Heureux ceux qui sont populaires. Heureux ceux qui ont de l'argent. Vous avez entendu parler de ceux qui font tout pour devenir millionnaires, de ceux qui aspirent à avoir le plus haut diplôme qui soit, de celles qui rêvent de devenir un jour Miss Univers, de ceux et celles qui aspirent à devenir des idoles et des vedettes de cinéma. Voilà les objectifs que certains aspirent à atteindre en pensant que cela leur apporterait le bonheur. Et pourtant, beaucoup de personnes qui ont toutes ces choses sont les plus malheureuses sur la terre. Et j'avais bien aimé quand Daniel Julien était venu ici il y a plusieurs années, lui qui a connu le monde merveilleux du cirque, parce qu'il a travaillé au Cirque du Soleil, il disait ceci: Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse atteindre la gloire. La gloire, elle appartient à Dieu seul. Il a dit, quand un homme reçoit la gloire, eh bien c'est tellement dur à porter qu'il est obligé de consommer de la drogue, prendre de la boisson ou se lancer dans quelque chose pour oublier cette pression, ce poids de la gloire qui pèse sur ses épaules. Et quand vous regardez les grandes vedettes, le nombre de vedettes qui se suicident dans le monde après avoir atteint la gloire, des hommes qui ont été milliardaires qui se sont suicidés après avoir atteint la gloire, c'est un poids incroyablement difficile à supporter. Et les gens consomment aujourd'hui, bon, la grosse mode, c'est la cocaïne dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cinéma. Mais il y a un homme là, qui a reçu le César, pas un César, mais un Oscar. Une grande vedette qui a fait Truman Capote. Là. Ça vous dit quelque chose, le film Truman Capote? Ah bien, on l'a retrouvé mort avec une seringue dans le bras dans son appartement. Quelqu'un qui avait reçu le maximum, en fait, qui avait comblé le rêve de sa vie, recevoir un Oscar, c'est quand même le couronnement de tout acteur de cinéma, de toute actrice de cinéma. Et pourtant, quelques mois plus tard, on l'a retrouvé avec une overdose, mort avec une overdose dans son salon. Il en est de même avec l'acteur qui a fait Madame Doubtfire, hein, qui s'est pendu dans son garage. Des gens qui ont obtenu un Oscar. On pense à Elvis Presley, on pense à Michael Jackson, on pense à toutes ces vedettes qui ont atteint la gloire, la renommée mondiale, et qui n'ont pas été capables de supporter cette gloire, qui ont sombré dans toutes sortes de déviations. Et qui sont morts. Jésus va mettre l'accent ici, non pas sur ce qu'un homme a, mais sur ce qu'un homme est. Heureux ceux qui. Puis il va détruire les traits de caractère qu'il doit posséder. Et le premier qu'il mentionne parmi tous ces traits de caractère, c'est celui d'être pauvre en esprit ou se sentir pauvre en eux-mêmes. Je vais vous ouvrir une parenthèse tout de suite et je vais la fermer tout de suite. Si on n'a pas la première béatitude, il est impossible de naître de nouveau. Si on ne manifeste pas la première attitude qui est donnée ici par Jésus dans les béatitudes, il est impossible de naître de nouveau. Il est impossible. Voilà pourquoi les béatitudes ne sont pas quelque chose qui est écuménique, que ça ne fait pas partie du dialogue interreligieux, c'est pour ceux uniquement qui sont nés de nouveau. Vous ne pouvez pas pratiquer comme Dieu veut la deuxième si vous n'avez pas d'abord passé par la première. Ce n'est pas le fruit du hasard que les béatitudes sont dans cette façon-là, elles sont classées de cette façon-là. La première béatitude, elle nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Elle permet à Dieu de venir habiter dans nos cœurs parce qu'on devient ses enfants. Et c'est vraiment important ce matin. Ce sera peut-être pas un message facile à saisir. C'est sûrement pas facile à dire. Mais ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer qu'on a vraiment maîtrisé, on a vraiment bien compris la première béatitude que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Beaucoup de gens luttent dans des églises pendant des années, viennent à l'église, luttent avec le même péché, ne ressentent pas cette présence de Jésus-Christ dans leur vie. Et pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, mais ce sont des chrétiens de nom. Je ne juge pas personne, hein? Je parle de nos églises, je ne parle pas de mon église, je ne parle pas de notre église, je parle des églises en général. Viennent, ne vivent absolument rien, et pourtant dans leur cœur, il y a un cri de désespoir qui, auprès du Seigneur, Seigneur, manifeste-toi, moi je ne comprends pas que moi je ne vis pas ce qu'un tel vit, je ne comprends pas, je ne reçois pas telle bénédiction que tu donnes à un tel. Pourquoi? Parce que la première béatitude n'a jamais été une réalité dans leur vie. Alors ils viennent à l'église parce qu'ils doivent venir à l'église. Ils viennent à l'église parce qu'ils ne veulent pas être jugés par les autres personnes qui viennent à l'église le dimanche. Mais c'est de la religion. Et ce que Jésus veut nous montrer à travers ça, Dieu veut nous élever au-dessus de la religion. Il veut qu'on vive une relation personnelle et intime avec lui. Et Jésus va vraiment s'appliquer, essayer de nous faire comprendre à travers d'autres passages ce qu'il veut dire par là. Et j'aimerais que vous pensiez à cette première clé du royaume, parce que c'est la première clé, c'est la clé qui ouvre la porte pour entrer dans le royaume. Regardez ce qu'il dit, la pauvreté de l'esprit. De quoi Jésus est-il en train de parler lorsqu'il parle de pauvreté d'esprit ici? Il est en train de parler d'avoir un esprit de mendiant, heureux les mendiants, c'est ce qu'il veut dire, heureux les mendiants. Dans la Bible, il y a plusieurs mots qui font référence à la pauvreté. Il y a celui que nous retrouvons dans le récit de la pauvre veuve, dans Marc chapitre 12, les versets 41-44. Vous vous rappelez sûrement cette histoire, c'est cette pauvre femme qui n'avait que deux petites pièces d'argent en cuivre, à donner. Et Jésus va utiliser le mot pauvreté pour décrire la condition de cette pauvre veuve. Mais ce n'est pas le mot qu'il a utilisé pour parler, ce n'est pas le même mot qu'il va utiliser pour parler de pauvre en esprit. Parce que le mot qu'il utilise ne parle pas de cette sorte de pauvreté. Le mot que Jésus emploie ici, est un mot qui signifie un mendiant. Quelqu'un qui réalise qu'il est démuni. Quelqu'un qui réalise qu'il n'a rien dans sa vie. C'est un mot qu'il va utiliser dans Luc chapitre 16, les versets 20 à 31. Et ça concerne l'histoire de ce pauvre Lazare, ce pauvre couvert d'ulcères partout sur le corps, et qui était couché à la porte d'un riche. Le texte nous dit qu'il désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et que les chiens venaient lécher ses ulcères. Et le mot « pauvre » ici, utilisé par Jésus, signifie qu'il était totalement démuni et sans ressources. Et c'est ce que veut dire le mot « pauvre » ici que Jésus utilise. Ce n'était pas seulement un homme pauvre, mais quelqu'un qui était entièrement démuni de tout. Et Jésus va dire d'un tel homme « heureux ». Ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux celui qui est pauvre en esprit. Heureux ceux qui réalisent qu'ils sont mendiants. Eh bien, je vais vous ouvrir une autre porte pour vous mettre sur une piste. Pour être capable de reconnaître qu'on est des mendiants, il faut être capable de mettre notre orgueil de côté et de s'humilier. Et ça, c'est le premier contact avec la clé qui va nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Le mendiant spirituel. Regardez, j'aimerais que nous examinions rapidement le mendiant spirituel et sa faillite. Lorsque Jésus dit « heureux les mendiants, heureux ceux qui sont en faillite », il n'est pas en train de parler de pauvreté financière ici. Nous ne trouvons nulle part un verset dans la Bible qui enseigne que c'est un signe de bénédiction que de vivre pauvrement à cause d'un manque d'argent. Il est écrit que lorsque nous donnons aux pauvres, cela revient à prêter à Dieu et qu'il récompensera cette générosité. Notez là, Proverbe 19, 17. Quand vous prêtez à un pauvre, quand vous donnez un pauvre, vous prêtez à Dieu. Et jamais Dieu sera en dette envers qui que ce soit. Amen.
Amen.
Ouais. Et il y a une bénédiction qui vous attend. Que celui qui est généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien. Ça, c'est la bénédiction. Proverbe 28, 27. Celui qui prête à Dieu... celui qui donne aux pauvres, c'est comme si ça revient à prêter à Dieu. Et la parole nous dit qu'il ne manquera jamais de rien, celui qui prête. Dieu a choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi, dit l'apôtre Jacques, et qu'il accorde le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui mettent en pratique sa parole. Mais nous ne trouvons aucun verset qui enseigne ici que la pauvreté matérielle est une bénédiction. Si Jésus parle ici de la bénédiction que pourrait apporter le fait de vivre sans avoir de l'argent, il serait alors, c'est mon raisonnement, si c'était vraiment ce que Jésus parlait, de faire vivre en pauvrement, alors ça serait notre devoir de s'appliquer à faire en sorte que tout le monde sur cette terre devienne pauvre, y compris moi-même. Ce serait notre responsabilité de dépenser toute notre richesse et aider les autres à faire la même chose pour pouvoir se retrouver dans un monde où il n'y aurait que des pauvres, afin qu'on puisse tous être heureux. Et je ne pense pas que c'est logique de penser comme ça, et je ne pense pas non plus que c'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici, pas du tout. Jésus ne fait pas non plus référence à quelqu'un qui manquerait de jugement. Il dit « heureux ceux qui sont pauvres en esprit et non pas heureux ceux qui manquent de jugement, qui sont incapables de prendre une décision sensée dans leur vie, qui marchent le dos courbé avec un visage triste pour montrer jusqu'à quel point ils sont humbles. » Ce n'est donc pas cela qu'il parle, et encore moins de quelqu'un qui manque de jugement parce qu'il manque de caractère. Alors, de quoi parle Jésus ici quand il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Chers amis, notre nature humaine est composée d'un corps. on appelle ça la vie physique. Votre âme, nous avons aussi une âme. On appelle ça la partie psychique, c'est-à-dire, c'est l'ensemble des phénomènes mentaux, c'est-à-dire la pensée, l'émotion, la conscience, c'est-à-dire la personnalité d'une personne, ça fait partie de notre âme. Les chiens, les chats ont une âme. Pourquoi? Ils n'ont pas un esprit, ils ne sont pas capables d'entrer en contact avec Dieu, mais ils ont un corps, ils ont une âme, c'est-à-dire ils ont une mémoire. Hein? Quand vous punissez un chien, en tout cas, je sais bien que mon chien, je n'ai pas eu besoin d'y répéter 5-6 fois de ne pas faire ça. Il a compris, ça veut dire qu'ils ont une mémoire, ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Donc l'esprit, c'est Dieu est esprit et seul l'être humain a une capacité d'entrer en contact avec Dieu et non pas les animaux. Et avec votre esprit, bien, vous avez une vie spirituelle. Avec votre corps, vous connaissez le monde qui se trouve sous vous. Avec votre âme, vous connaissez le monde qui se trouve autour de vous. Et avec votre esprit, vous connaissez le monde qui se trouve au-dessus de vous. Le monde spirituel, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais avant que quelqu'un puisse entrer dans le royaume des cieux, il doit admettre premièrement que dans son esprit, dans le domaine spirituel, peu importe ce qu'il peut avoir dans le domaine matériel, peu importe ce qu'il peut avoir comme connaissance dans le domaine psychique ou dans le domaine spirituel, il est totalement démuni de tout et sans ressources et qu'il doit se présenter comme un mendiant spirituel devant Dieu, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a rien de bon à offrir à Dieu pour entrer au ciel. S'il ne réalise pas cela, il n'entrera jamais dans le royaume des cieux. Jamais. Et nous avons un modèle parfait. Jésus-Christ, qui se trouvait dans la gloire de Dieu, s'est humilié. Il est le premier qui nous a montré que l'orgueil, ça ne sert à rien. Il est le premier qui s'est humilié. Il nous a donné l'exemple. Amen. Ouais. Le mot qui définit le mot mendiant et le mot pauvre, utilisé par Jésus, vient d'un mot grec dont la racine signifie celui qui vient dans une attitude d'humilité, tout recroquevillé, et tout tremblant. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous dites ça en Belgique ici. Il n'y a pas de pan. C'est ça, ceux qui les ouvrent la queue, là, ça fait un arc-en-ciel. On dit un pan ici, un paon, un pan. Okay. Il n'y a pas de pan dans le ciel. Il n'y en a pas. Et vous savez pourquoi le pan ouvre sa queue? Vous savez pourquoi? Le pan, il fait le fier. Hein? Il fait le fier. Merci. Ah, c'est ce que vous aviez dit? Je n'avais pas compris. Jésus est en train de parler ici de quelqu'un qui est complètement dévasté, dépourvu de tout argument au point d'en être réduit, à un être mendiant. Et lorsqu'il se présente devant Dieu, il ne peut que dire, « Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, je m'accroche simplement à ta croix. » Voilà où tout commence. Voilà pourquoi c'est ce qui se traite de caractère que Jésus souligne en premier ici dans les Béatitudes, « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. » Et ça nous rappelle une chose, et Paulo, là, laisse entendre dans ce qu'il a lu par rapport à la Sainte-Sainte tantôt, l'importance de proclamer l'Évangile tel qu'il doit être proclamé, l'importance de prêcher l'Évangile pour que la personne puisse se voir telle qu'elle est aux yeux de Dieu, que c'est une personne qui est pécheur, que c'est une personne qui est perdue, et que si c'était pas de la grâce de Dieu, eh bien, c'est le désespoir pour elle pour l'éternité. Et sa condition, eh bien, elle est terrible, quoi, parce qu'on sait ce qui arrive à ceux qui meurent sans Dieu, quoi, hein. Ceux qui meurent sans Dieu, on sait ce qui arrive. Donc, c'est vraiment important d'annoncer l'Évangile. Pas sous un effet de condamnation, absolument pas. Mais il y a une chose de sûre, hein? Vous annoncez l'Évangile à quelqu'un, il peut refuser, il peut faire ce qu'il veut, hein, avec. Mais il y a une chose, quand il va comparaître devant Dieu, il va être sans excuse, lui. Et doublement sans excuse, parce qu'il l'aura entendu, alors qu'il y a des gens qui n'entendent jamais dans d'autres pays. Jamais. Et ça, c'est à l'Église, c'est la responsabilité de l'Église d'envoyer des gens pour annoncer l'Évangile dans ces pays où on a de la difficulté à avoir une Bible, où on n'entend pas l'Évangile, alors que nous, on l'entend tous les dimanches. Et la question qu'on pourrait se poser, hein, on a toutes les versions qu'on veut dans nos maisons. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec la Bible que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'on fait avec sa parole? S'il y en a qui sont doublement et qui vont répondre doublement à ce qu'ils ont entendu, à la décision qu'ils ont prise, on aura à répondre à Dieu pour ce qu'on a fait avec sa parole. La seule façon d'amener les gens dans l'humilité, la seule façon d'amener les gens à découvrir que ce sont des mendiants aux yeux de Dieu, c'est lorsqu'ils entendent l'Évangile, lorsqu'ils entendent qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont perdus pour l'éternité, et que Dieu, dans sa grâce, qui déteste le péché, aime le pécheur et qu'il veut de lui donner l'opportunité
de pouvoir non seulement devenir son enfant, mais devenir son héritier et pouvoir entrer au ciel pour l'éternité. C'est ça le message de l'Évangile. Ce qui est important, et c'est Jésus qui a accompli parfaitement ce que la loi demandait pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés. Frères et sœurs, les gens ne sont pas malheureux à l'intérieur pour rien. Hein? Il y a un évangile dans le monde qui dit, écoute, essaye d'atteindre tes objectifs. Non pas ce que tu dois être, mais ce que tu peux être en mesure, être capable d'obtenir. Et c'est une course contre la montre pour obtenir le plus de biens, le plus de choses possibles à l'extérieur. Et nos hôpitaux sont remplis de personnes qui font des burn-out, qui sont rendues au bout, parce qu'ils ont essayé d'obtenir les objectifs que le monde leur suggère plutôt que de suivre les objectifs que Dieu nous donne dans la personne de Jésus-Christ. Et les objectifs que Dieu nous donne à travers la personne de Jésus, c'est ce qu'on appelle le repos dans la foi. Dieu n'est pas là pour nous donner des burn-out en tant qu'enfant de Dieu. Se reposer en lui, c'est lui qui œuvre à travers nous. C'est ça qui est magnifique, quoi. Moi, je ne suis pas là pour construire, bâtir mon royaume. Moi, je suis là pour travailler au sein d'un royaume qui a été mis sur pied par Jésus-Christ. Et tout ce que Dieu me demande, c'est participer en tant qu'ambassadeur à l'avancement de son royaume. Annonce l'Évangile. Annonce l'Évangile. Oui. Il peut vous arriver d'entendre des gens qui fréquentent l'Église dire « Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas aussi mauvais que d'autres personnes. » Eh bien, j'espère que vous ne faites pas partie de cette catégorie ce matin, parce que si c'est le cas, vous n'avez pas encore réalisé votre faillite spirituelle et vous n'avez pas encore vu votre misère spirituelle. Lorsque quelqu'un dit « c'est vrai que je ne suis pas parfait, que j'ai certains défauts, mais qu'il y a aussi de bonnes choses en moi », c'est que cette personne ne s'est jamais vue telle qu'elle est et qu'elle n'a jamais lu ce qu'Isaïe écrit. Nous sommes tous des gens impurs, qui sommes impropres à ton service, et toute notre justice, c'est-à-dire nos bonnes actions, sont comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Isaïe 64, verset 6. Jésus dit au verset 20, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et en apparence, les religieux de l'époque de Jésus paraissaient mieux que quiconque se trouvait dans cette salle ce matin. Personne n'était capable de trouver un seul défaut, une seule faute à ces religieux. Ouais, extérieurement, là. Ils étaient parfaits. Et quand Jésus va les reprendre, c'est pas pour rien qu'ils réagissent fortement. « Qu'est-ce que tu as à nous reprocher, toi? » Hey. Jésus dit, les gens regardent à l'extérieur. Hein? Les gens regardent aux apparences. Mais moi, je suis capable de lire dans votre cœur. Et ça pue dans votre cœur. Vous sentez la pourriture dans votre cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit, hein, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements de mort. C'est ce que Jésus leur dira. Hein? Ce dont nous venons de parler, c'est du mendiant spirituel, de sa faillite spirituelle. J'aimerais maintenant qu'on regarde le mendiant spirituel et son brisement. Parce que voyez-vous, le brisement vient après que nous ayons reconnu notre faillite spirituelle. Premièrement, un homme doit découvrir et admettre simplement ce qu'il est. Beaucoup de gens n'ont jamais vraiment réalisé cela. Pour la plupart des gens, leur plus grand besoin, c'est de voir leurs besoins. Beaucoup de gens que nous retrouvons aussi dans les églises à dimanche matin ont une autre opinion d'eux-mêmes et n'ont rien à se reprocher, au point de penser qu'ils font une grande faveur à Dieu d'être à l'église. Ce sont ceux ou celles qui pensent qu'ils sont trop bons pour que Dieu les envoie en enfer. Nous devons en arriver à faire une grande découverte, qui est celle de réaliser qui est Dieu, pour ensuite comprendre qui nous sommes. Est-ce que vous savez que moi, avant d'entendre l'Évangile, là, je me prenais pour une bonne personne? Est-ce que vous savez que j'avais absolument rien à me reprocher? Est-ce qu'il y en a qui ont été comme moi, qui ont réussi ça dans leur vie? Ouais. Eh bien, moi, j'étais une méchante crapule. Hein? Ouais. Et j'ai réalisé que j'étais une crapule en lisant les Écritures. Parce qu'avant qu'on m'annonce l'Évangile, j'étais convaincu que Dieu ne pouvait pas me refuser d'entrer au ciel. Je ne savais pas où j'allais, hein, mais une chose que je savais, si je devais aller au ciel, Dieu ne pouvait pas me refuser d'aller au ciel. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'on doit d'abord avoir notre faillite spirituelle pour être en mesure après de s'humilier. On a besoin de s'humilier devant un Dieu qui ne nous doit absolument rien. Et plus je lis les Écritures, hein, et plus je me demande comment Dieu a pu faire pour me pardonner, quoi. On a besoin de réaliser qui est Dieu pour ensuite comprendre qui nous sommes. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur essayez de comprendre maintenant, parce qu'il a horreur du péché, qu'il puisse aimer le pécheur. Ça, c'est difficile à comprendre. Comment peut-il détester le péché et aimer le pécheur? Dieu déteste le péché parce qu'il est trois fois saint. Dieu déteste le péché parce qu'il voit tout ce que ça cause sur la terre. Les guerres que ça a amenées, les abus physiques, sexuels et autres que ça a apportés. Dieu déteste le péché parce qu'il voit que l'œuvre, le chef-d'œuvre de sa création, qui est l'homme et la femme, eh bien, le diable est simplement en train d'en faire des esclaves, des déchets. Dieu déteste le péché. Mais Dieu aime le pécheur parce qu'il va transformer votre corps mortel un jour et il va en faire un corps immortel. Est-ce que vous êtes amen à ça? Oui. Et il va tout recommencer à neuf. C'est extraordinaire. Ça, c'est le message de l'Évangile, ça. Et ça vaut la peine d'être annoncé. Hein? Ouais. Combien je rencontre de gens qui me disent, si je pouvais recommencer ma vie, il y a tellement de choses que je ne ferais plus. Eh bien, tu peux la recommencer, ta vie. C'est ce que je leur dis. Tu peux repartir à zéro. Mais pas sur la base de tes principes, sur la base des principes de Dieu. La nouvelle naissance, une nouvelle personne. Extraordinaire, ça! Hey, à 33 ans, j'ai passé proche de me tirer avec mon pistolet de service. À 33 ans! Et il y a un chrétien qui a osé ouvrir la bouche. S'il l'avait pas ouvert, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Parce qu'à 33 ans, j'en avais trop vécu. Ouais. Et il a osé ouvrir la bouche. Et je rends grâce à Dieu pour ce chrétien qui a ouvert la bouche, m'a parlé de l'amour du Seigneur Jésus. Qui m'a amené à voir ma misère spirituelle. Qui m'a amené à m'humilier devant 700 personnes, avançant en avant, puis confesser le nom de Jésus-Christ un jour. Ouais. Frères et sœurs, l'Évangile, c'est simplement partager ce qu'on vit avec le Seigneur. C'est simplement ça. C'est simplement dire aux gens ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Ouais. Vous rencontrez quelqu'un, tombez en amour avec, le monde n'existe plus. C'est vrai, hein? Tombez en amour avec une femme, vous allez prendre quelque chose au restaurant avec, eh bien, il y a du monde qui passe autour de vous, vous ne les voyez plus, votre monde, c'est elle, hein? Votre monde, c'est lui, hein? Ouais. Mais quand vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ de façon personnelle, que vous tombez en amour avec le Seigneur Jésus, là, il n'y a que lui qui peut exister, hein? Ouais. Votre priorité, ça devient lui, hein? Ouais. Quand on tombe en amour avec quelqu'un, notre priorité, hein, c'est de le fréquenter, c'est apprendre à le connaître, c'est de construire quelque chose avec lui, parce qu'on sait que notre futur, c'est avec lui ou avec elle qu'on va le passer. C'est la même chose spirituellement parlant. Hein. Quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, on cherche à l'apprendre à le connaître, on cherche à construire notre vie sur lui, parce qu'on sait que c'est de lui que dépend notre vie, toute notre vie, notre avenir et notre éternité. Amen. Ouais. C'est vraiment important. Frères et sœurs, vous en êtes avec votre relation avec le Seigneur ce matin? Est-ce que vous avez déjà vécu, ou est-ce que vous vous rappelez avoir vécu, la première béatitude que Jésus nous donne ici? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. C'est la première clé. Prenez le cas de Simon-Pierre qui exerçait le métier de pêcheur et qui avait un caractère agressif, qui n'avait pas la langue dans sa poche et qui disait toujours ce qu'il pensait. Bien sûr qu'il n'avait pas toujours raison, mais il était lui porté à penser le contraire. Mais voilà qu'un jour, Simon-Pierre a eu un aperçu de la majesté de la gloire de Jésus. Savez-vous ce qu'il a dit à ce moment-là? Il tomba, c'est ce que les Écritures nous disent, hein, Luc chapitre 5, verset 8. Il tomba à genoux aux pieds de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il venait finalement de réaliser sa faillite spirituelle. Ouais. C'est pas, Seigneur, si je m'avance devant toi ce matin, je te fais une faveur. Hey! Et frères et sœurs, on est dans une génération de chrétiens qui croient cela, hein? Seigneur, si je vais à l'église ce matin, là, oublie-moi pas, hein, cette semaine. Je te fais une faveur, hein? Parce qu'il y a la batte aussi, hein? On est dans cette génération-là. On prie et on donne au Seigneur, c'est comme une obligation qui doit nous répondre. Dieu ne nous doit rien. Dieu vous doit rien, puis Dieu me doit rien. On a besoin de faire en sorte que les bearings tournent dans le bon sens, hein, dans notre cerveau. Hein? Oui. Quand on regarde notre attitude par rapport à notre vécu chrétien, par rapport aux chrétiens du livre des Actes, mes frères et sœurs, je m'excuse de le dire, sans jugement, on n'est nulle part, hein? Pierre dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Moi, si une journée, ma vie n'est pas comme celle que Jésus a demandé, hein? Eh bien, quand je viens le matin au pied de la croix pour confesser mes affaires, hein, je dis, « Seigneur, j'espère que tu ne te rappelles pas trop ce que j'ai vécu aujourd'hui parce que ce n'était vraiment pas pour ta gloire, Seigneur. Je ne suis même pas capable d'élever les yeux au ciel, quoi. J'ai honte. Ce n'est pas des gros péchés, hein? Mais je n'ai pas vécu la manière que Dieu m'a demandé de vivre en Jésus-Christ. Les chrétiens de l'Église primitive, c'est comme ça qu'ils agissaient. Hein? Les apôtres nous ont montré un exemple. Hein? Jésus nous a donné un exemple. Hein? Ouais. C'est facile de mettre la grosse musique ici en avant, style discothèque, en faire danser tout le monde dans une salle le dimanche matin. Hein? Ouais. Ouais. Et ça va être rempli ici, hein? Il faut mettre des jubés en haut, ouvrir sur le côté aussi. Hein? Ouais. Mais si ces gens-là ne sont pas nés de nouveau, là, on perd notre temps. Hein? Parce que les gens du monde sont capables d'amuser bien mieux le monde que nous, on peut les amuser. Hein? Ouais. On est dans une génération de chrétiens qui vient à l'Église, qui loue le Seigneur pour entrer en communion avec lui, alors que c'est tout le contraire. Hein? C'est parce qu'on est en communion avec le Seigneur qu'on est capable de le louer. Hein? C'est tout le contraire. Hein? Il y a des gens, là, ça loue le Seigneur, hein, ça crie, ça saute, hein, ils vivent rien. Hein. « Ah, oh, Seigneur, allez, rentre en moi, Seigneur, je te sens pas, allez, hein, Seigneur, allez, je te pousse loin. » Non, non. Dans un esprit d'humilité, je me présente devant toi, Seigneur, je te rends grâce. En grâce, Seigneur, de ne pas me punir comme je le méritais. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir fait de moi ton enfant. Je te rends grâce, Seigneur, de me donner ces promesses qui me permettent de savoir que je vais régner avec toi pour l'éternité. Avez-vous pensé à ça? Celui qui tient l'univers dans ses mains, qui contrôle tout, a décidé qu'on était pour régner avec lui. Il va à un moment donné vous faire asseoir sur son propre trône. Hey! Alors qu'ici à l'église, quand il y a quelqu'un qui prend notre chaise, on change de visage, quoi, hein? C'est vrai, hein? Ça, on tire la tête et puis ça vient saboter notre culte, quoi. Hein? Une simple chaise de l'Église, quoi. Alors que le Seigneur, il dit, « Prends mon trône, assis-toi dessus. » Allez lire l'Apocalypse, hein. « Je vais te prêter mon trône. » Extraordinaire, non? On vit rien que le Seigneur, frères et sœurs. Faut pas se gêner, hein. Je suis pas mieux que vous. On a trop, on est dans une société où on a trop. Il n'y a pas de place pour Dieu. Dieu a de la difficulté à faire sa place dans notre vie. Les chrétiens de l'Église primitive, ils vendaient tout. Hein? Ils ne cherchaient pas à jouer à la bourse. Ils ne cherchaient pas à se ramasser de l'argent. Parce que ce qu'ils visaient surtout, c'est de vivre comme Dieu demandait de vivre, et c'était d'attendre le retour de Jésus-Christ. Et simplement le fait d'attendre le retour de Jésus-Christ, même s'il tarde, hein, simplement le fait de penser que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, ça va faire tomber beaucoup d'ambitions dans nos vies, hein, des ambitions qui sont purement humaines, hein, des ambitions qui nous viennent du monde, hein, pour vivre comme Jésus nous a demandé de vivre. Hey, frères et sœurs, pas un message facile à donner ce matin, ça m'a tapé sur la tête, tout le temps je l'ai préparé. J'ai dit au Seigneur, je ne vais pas le donner ce message-là. Le Seigneur a dit, tu vas le donner. À travers Paolo ce matin, il a confirmé aussi. Hein? Je me disais, j'étais là, je bénissais le Seigneur pour les passages qu'il avait lus. Ouais. 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 Pas facile, hein? Pourquoi vous dire hein, ce matin, arrivé avec un beau message, mes chers amis, le Seigneur, il vous aime. Combien il vous aime. Ouais. Et peu importe ce que vous faites dans votre vie, il est tellement bon qu'il passe par-dessus tout ça. Hein? Ouais. Connaît votre faiblesse. Oui. Il sait que vous êtes des êtres faibles dans votre chair. Et il prie pour vous, Jésus, à la droite du Père, pour que vous en fassiez pas trop. Hein? Ouais. Ça, c'est les messages qui accrochent aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas ce genre de prédicateur-là. Surtout avec le nouveau courant de pensée, l'Église émergente, qui adapte la Bible avec l'époque qu'on vit, eh bien, je peux vous dire une chose, il y a des églises qui ne racontent rien, absolument rien. Moi, je suis ici pour vous dire la vérité, même si je ne tente pas de la dire, pour une bonne raison, c'est marqué que je vais devoir rendre compte à Dieu en double de ce que je vous ai renseigné. En double. Vous, c'est simple, mais moi, ça va être double. C'est ce qui est marqué dans la parole. Hein? Le prophète Isaïe était un grand homme de Dieu. Pourtant, regardez ce qu'il écrit au chapitre 5. Vous lirez ça à la maison, on n'a pas le temps. « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché, comme avec les traits d'un char, et qui disent « Qu'il a hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. » Vous lirez ça à la maison, là, j'ai vraiment pas le temps. Isaïe, chapitre 5, verset 18 à 23, vous aurez les passages sur Internet. Et puis, au chapitre 6, verset 1 et 5, il dit ceci, Isaïe, « Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Et il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Isaïe reconnaît qu'il était pauvre en esprit. Pense à cette femme dans Matthieu, chapitre 15, verset 22-26. C'était une Cananéenne, c'était une païenne qui venait de Phénicie. Voilà que Jésus passe par là, et cette femme, elle vient voir Jésus. Elle a une fille qui est possédée d'un démon, et elle désire que Jésus guérisse sa fille qui était possédée. Et afin de l'amener à être brisé spirituellement, regardez bien tout le travail de Jésus. Il n'est pas venu la voir, il va dire, « Ah, tu fais pitié, ma petite fille, tu fais pitié, je vais te consoler. » Regardez ce qu'il va faire. Il va l'amener à être brisé spirituellement. Elle va lui dire, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et Jésus va lui répondre, « Je ne suis pas venu pour toi. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, dit la maison d'Israël. » Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se prosterner devant lui. Elle dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens, aux petits chiens. » Jésus lui a dit quelque chose qui lui a sûrement paru terriblement cruel. Qui aurait pu penser que Jésus aurait pu prononcer une parole semblable, quoi? Mais ce que le Seigneur veut l'amener, là, il veut l'amener à un brisement spirituel. De notre côté, cela peut nous surprendre d'entendre ces paroles sorties de la bouche de Jésus qui comparaient cette femme à un chien. Le mot « chien » qu'il avait utilisé signifiait un animal de compagnie, dans le grec. On aurait pu croire que cette femme syrophénicienne aurait été vexée de recevoir une telle réponse. Elle aurait pu se dire, « Dans toute ma vie, on ne m'a jamais traité de cette façon. On m'a dit de lui que du bien. Je croyais que c'était un homme dont le cœur était rempli de compassion. » Mais ce n'est pas ce qu'elle s'est dit. Elle n'a pas dit, elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle a dit? Regardez ce qu'elle va lui dire. « C'est vrai, Seigneur. Tu as tout à fait raison. » Brisement spirituel. Quand on entend l'Évangile, puis que la parole nous dit qu'on est tous des pécheurs, on a deux choix. Dire, Seigneur, je ne veux rien savoir de ce que tu as raconté. Ou dire, commencer à réfléchir sur ce que j'entends et dire, si tous ont péché, bien, tous, je fais partie des tous. Si tous les êtres humains ont péché, si la Bible dit que j'ai péché, que Dieu n'est pas menteur, donc je dois croire que Dieu me dit la vérité. Ou je dois croire que le chrétien qui est en train de lire les Écritures devant moi, il me dit la vérité. Et ça, c'est le processus de briser le cœur de quelqu'un parce qu'on est tellement dur. On a le cœur tellement dur. Et c'est ce qu'il fait ici. Il va l'amener. Il va l'amener à ça. Elle dit, c'est vrai, tu as raison. Tu as fait raison, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur, Seigneur. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Mais regardez ce qu'elle lui dit. Mais les petits chiens, Seigneur. Ils mangent les miettes qui tombent de la table, de leur maître. Et lorsqu'elle utilise le mot chien, elle n'utilise pas le même mot grec que Jésus va utiliser. Elle va utiliser le mot grec qui signifie sale cabot, un chien galeux, un chien de rue. C'est le mot chien en grec qu'elle va utiliser. Vous imaginez à quoi elle se compare? Et le mot « chien » aussi qu'elle utilise, ça veut dire « je suis une bâtarde, Seigneur ». C'est vrai. C'est vrai que je ne fais pas partie des enfants d'Israël. C'est vrai que je suis une bâtarde, que je ne mérite absolument rien. Je ne suis pas de ta race, Seigneur. Voilà comment elle va se décrire, cette femme. Et le cœur de Jésus va être profondément touché. Il lui dit, « Femme, ta foi est grande. Ta récompense le sera aussi. » Qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même sa fille fut guérie. Frères et sœurs, quand quelqu'un reconnaît qu'il est pécheur aux yeux de Dieu, le cœur de Dieu est touché. Parce que ça, c'est la moitié d'une partie qui est très difficile à confesser, que je suis pécheur, et non pas une bonne personne comme je pense que je suis. Ouais. Et ça, là, c'est déjà un gros pas de foi à faire. Jésus dit à cette femme, « Femme, ta foi est grande et ta récompense sera aussi. » À partir du moment où on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on reconnaît qu'on est sauvé uniquement parce que Jésus a accompli à la croix, Votre récompense, elle est grande parce que vous devenez des citoyens du royaume des cieux. Vous passez de perdu à sauvé. Vous passez de désespéré qui reçoit une espérance éternelle, celle de la résurrection à la fin des temps. Oui, une belle image ici. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? La même chose qui est arrivée à Simon-Pierre lorsqu'il vit le Seigneur. La même chose qui est arrivée au prophète Isaïe lorsqu'il a vu le Seigneur. La même chose est arrivée à cette femme lorsqu'elle a vu le Seigneur. Ils sont devenus pauvres en esprit. Ils sont devenus des mendiants aux yeux d'un Dieu juste et saint. Ils se sont vus dépourvus de tout moyen pour pouvoir bénéficier de la pitié de Dieu. Et ces mendiants ont reçu exactement ce qu'ils voulaient de la part de Dieu. Regardez ce qu'elle dit au début d'une prière, et je vous mets au défi de lire dans la parole toutes les prières qui commencent par ça. « Seigneur, aie pitié de moi! » Il n'y a pas une prière que quelqu'un dit qui commence par « Seigneur, aie pitié de moi » que Dieu ne répond pas. Le cœur de Dieu est tellement touché qu'on vient de dire « Seigneur, aie pitié de moi! » Ça veut dire quoi? Quel esprit d'humilité! Bon, Seigneur, bon! Hey, j'ai besoin que tu me donnes 2 minutes, hein? Hey! Ah, t'as quelque chose à faire? Non, non, c'est moi que tu dois regarder, Seigneur, hein? Non! Seigneur, je suis même pas digne de te parler. Je suis même pas digne de fixer les yeux vers le ciel. Seigneur, je te demande d'avoir pitié de moi. Je te demande d'écouter ma prière. Eh bien, Dieu va écouter votre prière, hein? Si vous voulez avoir une image, hein, si Dieu est en train de faire d'autres choses, hein, il va mettre ça de côté pour vous écouter, hein? C'est humainement parlant que je dis ça, hein, parce que Dieu peut tout faire en même temps. Hein? Ouais. Ouais. S'il n'y a jamais eu un homme pour qui il était difficile de se voir en faillite spirituelle, c'était bien l'apôtre Paul. Premièrement, Paul était un juif de naissance. Deuxièmement, il faisait partie de la haute société. Troisièmement, c'était quelqu'un qui avait de l'argent. C'était quelqu'un qui était citoyen romain depuis sa naissance. Quatrièmement, il avait reçu la meilleure éducation que l'argent pouvait lui permettre de recevoir. Il avait été éduqué au pied d'un maître qui s'appelait Galiléel. Il possédait aujourd'hui l'équivalent d'un triple doctorat. Il parlait plusieurs langues. C'était un grand voyageur. Et il avait obéi aux lois juives avec une exactitude qu'il était renversante. Il dit, j'ai obéi parfaitement à la loi. Mais un jour, il va avoir un entretien avec Jésus-Christ. Et il va dire, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de pouvoir connaître davantage Christ. Frères et sœurs, après avoir reçu Jésus-Christ, après être devenu un enfant de Dieu, la chose la plus difficile pour un enfant de Dieu après, c'est de renoncer à tout. Qu'est-ce qui vous reste dans votre vie que vous n'avez pas renoncé à tout? Qu'est-ce qui vous reste? Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il renonce à tout et qu'il me suive, dit Jésus. Le problème, il est uniquement là, hein? Notre refus de renoncer à tout. À tout. Il y a des chrétiens qui sont capables de me donner la liste des joueurs du standard, qui sont incapables de me donner le nom des 12 apôtres. Hein? Ça fait 30 ans qu'ils vivent dans l'Église. Hein? Renoncer à tout pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, j'ai vu ça comme de la boue dans le grec, c'est que j'ai vu ça comme étant des excréments. Hein? Tout ce que je vivais avant, hein? Je vois ça comme de la boue maintenant. Parce que maintenant, je vois ce que Dieu me promet en Jésus-Christ. Peut-être que vous avez une personnalité, une capacité qui vous permet de toujours vous en sortir avec un grand sourire. Mais chers amis, au jour du jugement, si c'est votre cas, ne pensez pas vous en sortir en faisant un grand sourire à Dieu, en lui donnant une tape dans le dos ou en lui tendant la main parce que ça ne fonctionnera pas. Mohamed Ali était au sommet de sa gloire. Il attendait confortablement assis le départ de l'avion dans lequel il se trouvait. Avant le départ de l'hôtesse de l'air, l'hôtesse de l'air lui demanda d'attacher sa ceinture. Il répondit à celle-ci, « Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité. » Vous connaissez, hein? Vous connaissez l'orgueil de Mohamed Ali, hein, qui est mort il y a 2 ans. « Superman n'a pas besoin de ceinture de sécurité. » L'hôtesse lui répondit du tac au tac, Superman n'a pas besoin de prendre l'avion. Viens-y, hein? Ouais. Chers amis, lorsque quelqu'un se voit tel qu'il est, en faillite aux yeux de Dieu, alors il cesse de compter sur toutes ces choses qui ne peuvent pas l'aider ou lui faire du bien. Regardez ce que Jésus dit ici dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il est possible que vous vous posiez la question de combien doit surpasser votre justice ce matin. Nous avons la réponse au verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection ne se trouve pas dans ce que vous faites, elle se trouve dans ce que Jésus-Christ fait pour vous, dans ce que Christ fait pour vous. Et le plus difficile, c'est une autre chose difficile à accepter, que quelqu'un ait pu gagner le ciel pour nous. On ne veut tellement pas dépendre de personne. Et là, Dieu, il détruit toute la philosophie du monde. Tu dois maintenant dépendre de quelqu'un. Tu dois dépendre de Jésus-Christ. Tu dois dépendre de moi. Amen.
Amen.
Amen, hein? Rapidement. Chers amis, ce que nous devons faire, c'est d'arrêter de nous évaluer à partir des normes qui ne valent rien. Ce qui compte, c'est de nous évaluer à partir des normes établies par le Dieu Tout-Puissant. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Certains disent, eh bien, je suis aussi bon que ces gens-là qui fréquentent l'Église. Vous seriez mieux de dire, je suis aussi mauvais que ces gens qui fréquentent l'Église. Tous, sans exception, nous devons jeter notre orgueil dans la poubelle et venir nous présenter comme des mendiants devant un Dieu juste et saint. Chers amis, il y a la découverte de notre situation, et une fois que nous l'avons découvert, nous arrêtons de compter sur les choses dont nous avions tellement confiance et nous jetons notre orgueil dans la poubelle. Je me trouvais un jour au centre-ville de Montréal et j'ai vu un homme qui fouillait dans une poubelle juste en face d'un fast-food, en train de manger un restant de repas que quelqu'un avait jeté. Je vois à Liège, à la porte des supermarchés, des hommes et des femmes qui mendient. Je ne vous dis pas qu'ils sont tous honnêtes, mais je vous dis que j'en vois qui mendient, des gens qui sont honnêtement pauvres. Chers amis, je peux vous dire une chose concernant ces gens. Ce sont pour la plupart des gens qui ont tous perdu. Ce sont en tout cas pour la plupart des gens qui ont perdu tout sentiment de honte. Moi, je ne serais pas capable d'aller faire la manche, hein, au milieu d'une rue. Moi, je ne serais pas capable de commencer à frapper aux portes pour demander qu'on me donne 10 cents ou 25 cents ou 50 cents pour que je puisse m'acheter telle chose. Chers amis, dernier point en terminant. On a parlé du mendiant spirituel de sa faillite. On a parlé du mendiant spirituel et de son brisement. Maintenant, regardez la bénédiction qu'il reçoit. Vous vous dites peut-être ce matin, je n'ai jamais entendu un message aussi négatif comme celui de ce matin. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un message d'encouragement parce qu'il y a une bénédiction qui accompagne ça. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Il y a une bénédiction qui accompagne. Je trouve que c'est plutôt un message encourageant parce que Jésus dit que la voie de la bénédiction est pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres en esprit, que le royaume des cieux est à eux. Voilà la bénédiction. Ouais. Voilà la bénédiction. La voie de la bénédiction, c'est le seul chemin que vous pouvez prendre pour entrer au ciel. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. C'est ainsi que parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. C'est extraordinaire. Dieu est avec celui qui s'humilie. Dieu est avec celui qui s'humilie. Dieu combat l'orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Quel beau passage des Écritures. Il n'y a pas de pan au ciel. Tout péché trouve sa racine dans l'orgueil. Et tant aussi longtemps que les gens sont freinés par l'orgueil, ils ne sont pas prêts et disposés à recevoir la personne de Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Frères et sœurs, la raison pour laquelle cette béatitude occupe la première place, c'est parce qu'elle est le fondement de toutes les autres bénédictions dont Jésus va parler par la suite. Si vous n'avez pas cette première clé, les autres clés ne vous seront d'aucune utilité. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, les versets 3 et 4. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, et pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur cœur ce matin, vous écoutez l'Évangile avec un cœur d'enfant ou avec votre cœur adulte blessé, trahi, meurtri par toutes les trahisons que les gens ont faites dans votre vie. Est-ce que vous écoutez l'Évangile avec ce cœur ce matin? Il est impossible que Dieu fasse ce chemin dans votre cœur ce matin si c'est avec un cœur d'adulte que vous écoutez, entendez l'Évangile ce matin. Mais si vous écoutez l'Évangile avec un cœur d'enfant, eh bien, vous allez comprendre une chose, peu importe si le monde vous a trahi, peu importe si le monde vous a déçu, peu importe si le monde vous a fait du mal, en Jésus-Christ, tout ce que Dieu veut faire avec vous, c'est de vous bénir. ce que Dieu veut vous rassasier. Dieu veut guérir vos blessures. Dieu veut vous donner une nouvelle nature en Jésus-Christ. Dieu veut faire en sorte que vous puissiez reprendre un nouveau commencement. Ça, c'est avec Dieu. Et je pense que Dieu mérite cette chance. Entre guillemets, hein, j'aime pas dire le mot chance, mais je pense que Dieu ne forcera pas la porte de votre cœur. Mais si c'est votre cas ce matin, simplement ouvrez votre cœur et lui dites, « Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur, je réalise ce matin à travers ce que j'ai entendu combien je suis un misérable et non pas un saint. Combien je suis un misérable et combien j'ai désobéi à ta loi pendant une grande partie de ma vie. Je te demande pardon. Et je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Prendre sur lui tous mes péchés, tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Les prendre sur lui, accepter de subir le châtiment que je méritais pour mes péchés. Et en retour, me revêtir de sa justice afin que lorsque je comparaîtrai devant toi, eh bien, Seigneur, tu vas me recevoir dans ton royaume parce que tu vas me voir pur, pur à travers Jésus et non pas rempli de mes péchés en tant que pécheur. C'est ça le message de l'Évangile. C'est extraordinaire, quoi. Hein? C'est magnifique, quoi. Ouais, c'est un beau message. C'est un message d'espoir, quoi. Il y a quelle sorte d'espoir, quel message qu'il y a à l'extérieur? Il n'y en a pas, quoi. Hein? La seule espérance qu'on peut espérer, en tout cas dans la région de Liège, c'est que le standard arrive premier cette année, hein. Ouais. Il y en a des milliers qui vivent ça. Ils vont vivre ça pendant quelques mois, hein. Ouais. Au Québec, c'est la même chose. Hein? Le hockey commence bien, pendant 10 mois. Il y en a là, des multitudes. Surtout au Québec, c'est la folie, le hockey. Hein? Ouais, que le Canadien arrive le premier. Quoi, hein? Ouais. Et là, s'il arrive le premier, ils vont fêter dans les rues, ils vont casser les vitrines, ils vont démolir les voitures de police. Ils vont être fous. Hein? Ouais. Ouais. Et s'ils ne gagnent pas, bien, ils vont se saouler là, pendant une semaine. Quoi. Déçus d'avoir vécu 10 mois dans l'espérance que leur club favori arrive la première place. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, on occupe toute la première place. Il a déjà gagné la victoire. Il a déjà remporté le championnat sur le péché, frères et sœurs. Et il vous tend les bras pour ceux qui n'ont jamais accepté de prendre cette décision aujourd'hui. En terminant, elle était belle, elle était charmante et très douée. C'était le sujet de conversation de toute la ville. Une fille gracieuse et talentueuse. Elle était assise au piano et elle jouait. Les foules venaient l'écouter et lui disaient combien elle était douce et belle. Mais ce soir-là, dans la salle, il y avait un prédicateur. Il s'appelait César Minan. Après le spectacle, il s'est approché de la jeune femme et il va lui dire, « Vous avez beaucoup de charme, beaucoup de grâce et vous êtes très belle, mademoiselle, mais vous n'êtes pas sauvée. Et si vous ne voyez pas votre besoin de donner votre cœur à Jésus-Christ, vous êtes aussi perdue que la pire des prostituées à Londres. » La jeune femme s'est sentie comme quelque peu insultée, voire même choquée par l'approche grossière de ce prédicateur. Mais je pense que Dieu, le Saint-Esprit, savait ce qu'elle avait besoin. Parce que ce soir-là, elle monta dans sa chambre à coucher et elle essaya de s'endormir et n'y arriva pas. Elle essayait de rire pour se changer les idées, mais elle n'y arrivait pas. Elle essayait de rire et encore une fois, elle n'arrivait pas. Finalement, à 3 heures du matin, Charlotte Elliott donna son cœur à Jésus-Christ et expérimenta la nouvelle naissance. C'est elle qui a écrit un cantique qui nous arrive de chanter à l'occasion. « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je viens. » Voilà de quelle façon Charlotte Elliott est venue à Jésus-Christ. Chers amis, c'est de cette façon que vous venez à Jésus et que n'importe qui vient à Jésus, parce que c'est Jésus lui-même qui a dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà, chers amis, c'est la clé pour entrer dans le royaume. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se lever, on va chanter.